exception, c'est que j'ai à vous remercier pour vos prières, parce que voilà, c'était pas évident d'avoir la force d'être ici ce matin. Donc,
dans l'esquimau.
Donc merci pour votre soutien tout au long de ces semaines. Je ne sais pas si vous allez apprécier la prédication aujourd'hui. On va faire un cours d'histoire géo. Vous allez retourner à l'école, mais Christiane me dit toujours, arrête de te justifier au début de tes prédications. Donc, voilà. C'est comme ça, c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur. D'ailleurs, m'assois, parce que, à moins que je... Oh là, non. Non, je vais rester debout. Non, mais je vais glisser, je suis sûre. Je ne vais pas me retrouver avec des fractures de cheville. Donc, oui, bon. Aujourd'hui, je voulais parler de l'Église. Avec un grand E. On va lire quelques versets qui vont apparaître. Celui qui en a le plus parlé, ça a été Paul dans Éphésiens. Éphésiens 1, verset 22. Il est question de Jésus-Christ. Je lis les versets précédents. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Un autre verset, Éphésiens 3, 5 à 12. Il est donc question d'un mystère qui n'a jamais été révélé auparavant. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps, et participe à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. On va passer au verset 10. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Le verset 3:21. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Et 5:27. « Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » On se rend compte au travers tous ces versets, à quel point l'Église, ce mystère qui a été révélé en Jésus-Christ, est important. Peut-on aimer la tête sans aimer le corps? Je crois que l'un ne va pas sans l'autre. Je pense qu'être chrétien, c'est à la fois vivre sa foi individuellement, mais la vivre aussi collectivement, parce que quand on est à Christ, on appartient à la tête et on est le corps. Alors pourquoi aujourd'hui j'avais à cœur de vous parler de cette Église, pas seulement voilà, sur le plan doctrinal, comme on a l'habitude de le faire, mais sur le plan historique. Parce que cette Église, elle a toute une histoire, et moi j'aime beaucoup l'histoire. Et donc j'ai fait le choix de mettre en exergue deux étapes importantes de la vie, de l'histoire de l'Église. Deux pages. Alors c'est vrai que je connais peu le premier millénaire de l'Église, je ne m'y suis pas beaucoup attachée. Mais on a commencé à avoir davantage d'écrits au moment de la pré-réforme. Comme son nom l'indique, c'est les étapes qui se sont produites avant la fameuse réforme. Il y a eu un pré-réformateur. Alors tout ça, je fais un survol général. Hein. Vous aurez tout loisir d'acheter des livres ou d'aller voir sur Internet. Hein. On a connu un homme qui s'appelait Pierre Valdo, qui était un homme de Lyon, qui a vraiment été touché par une expérience avec le Christ et qui a annoncé l'Évangile dans toute la région du sud de la France et qui, en même temps qu'il y avait les cathares, c'était à la même époque à peu près que les cathares, et l'Inquisition de l'époque a profité à la fois de persécuter les cathares, mais de persécuter tous ceux qui avaient décidé de suivre cet homme, Pierre Valdo. Et donc, c'est de là qu'a été issu un mouvement qui s'appelle les Vaudois du Piémont. Hein, ces gens étaient obligés de se réfugier dans les montagnes au bout de quelques décennies. Dans le nord de l'Italie, ils ont amené la langue française à ce moment-là. Hein, toute la vallée d'Aoste est une région qui parle à la fois italien et français, et ça trouve ses racines dans cette histoire liée à cet homme, ce pré-réformateur, Pierre Valdo. Ce sont des gens qui se sont tournés vers Jésus-Christ, vraiment, et qui ont été persécutés. Ce mouvement-là, cette connaissance est allée plus loin, et aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur un homme qui s'appelle Jean Hus. Alors, j'ai fait mon travail d'histoire de l'Église au Collège biblique sur Jean Hus, donc c'est pour ça que je m'arrête sur lui. Mais je pense que c'est aussi une étape importante de l'histoire de l'Église. Alors, cette histoire se situe dans la région de la Tchéquie actuelle. La Tchéquie se trouve entre l'Autriche, l'Allemagne, la Pologne et la Hongrie, Prague étant à peu près au milieu. Et donc cet homme est né entre l'Autriche et Prague, dans un petit endroit, de parents pauvres, de parents paysans. Et en fait, le désir de ces gens était de pouvoir offrir à leur fils tout ce qu'eux n'avaient pas eu, c'est-à-dire une certaine éducation. Ils l'ont donc envoyé, dès que l'âge a été possible, être enseigné par des moines et un couvent qui était à proximité. Et là, il a été enseigné dans les mathématiques, dans la grammaire, c'était en 1380-70, donc c'était il y a très longtemps, c'est certainement pas les maths et la grammaire d'aujourd'hui, mais de l'époque, dans tout ce qui est la dialectique, la rhétorique, le latin, dans tout ce qui était aussi de cette vie, ce témoignage de vie monacale. Et cet homme s'est avéré, voilà, à la fois très intelligent, une capacité à parler, à réfléchir. Il était d'un tempérament modeste, humble, doux. Il a fini ses études et à la fin de ses études, il est allé à l'université à Prague pour faire... Il est devenu bachelier des arts. Alors, je ne sais pas le détail en quoi ça consistait. Et après, il a continué. Il est devenu recteur de cette... professeur de cette université à Prague, puis recteur. Et là, son éloquence et sa personnalité ont marqué la reine... De l'endroit de Prague, et il est devenu son confesseur. Dans la même époque, il y avait un mouvement qui provenait d'un certain John Wycliffe en Angleterre et qui lui aussi découvrait l'évangile, traduisait la Bible du latin en anglais et découvrait à la fois tout les fondements de ce qui allait être la réforme. Et comme la sœur du roi avait épousé le roi d'Angleterre, il y a eu énormément d'échanges entre l'université d'Oxford et l'université de Prague. Et c'est comme ça que les thèses de Wycliffe sont arrivées jusqu'à Jean Hus. Et ces choses sont arrivées en même temps que lui a été nommé recteur d'une chapelle qui s'appelle la chapelle de Bethléem à Prague, qui avait pour particularité depuis plusieurs siècles d'avoir des prédications dans la langue du pays et non pas la messe en latin. Donc les gens pouvaient comprendre ce qui était annoncé. Donc Jean Hus est devenu recteur de cette chapelle. Et ce poste l'a obligé à creuser l'écriture. Et là, il a fait la découverte que beaucoup de réformateurs plus tard ont faite. Il a découvert que la vie de l'Église romaine ne correspondait pas à ce que l'Évangile proposait. Toutes les richesses que l'Église emmagasinait, tous les liens avec le pouvoir des seigneurs, des rois, et qui asservissaient la population... Toute la question de l'autorité de l'Église de l'homme, incontournable, inconditionnelle, dans une soumission totale. Il a découvert ce que pouvait être le sacerdoce universel. Il a découvert aussi le salut par la grâce et non pas par les sacrements. Et toutes ces choses-là, il l'a prêché à Prague et ça a provoqué évidemment des remous importants. Au point qu'un des papes de l'époque, parce qu'il y en avait trois à cette époque-là, a fini par mettre la ville de Prague sous interdit. C'est-à-dire plus aucune messe, plus rien, tout était bouclé. Donc il s'est rendu compte que ça allait, en tout cas pour lui, à ce moment-là, trop loin, parce que c'était un homme paisible, il n'avait aucune intention d'être vindicatif, enfin d'entrer en guerre en quelque sorte. Donc il s'est dit, le mieux, c'est que je retourne dans mes campagnes. C'est ce qu'il a fait. Donc à ce moment-là, le pape a levé l'interdit sur la ville de Prague. Mais au vu de ses thèses, il a été nommé hérétique. Donc il a été excommunié parce que les thèses qu'il proclamait, qui sont celles que nous proclamons aujourd'hui ici, étaient considérées comme hérétiques. Le droit canon spécifie que, encore aujourd'hui, ce que nous croyons fait de nous des hérétiques. C'est écrit dans le droit canon. Donc, c'est quelque chose de fort quand c'est écrit vraiment. Donc, il est allé dans ses campagnes et là, il a continué à faire ce qu'il savait faire, c'est-à-dire à prêcher l'évangile. Et ça a de nouveau créé plein de remous. Et ce qui a mis un peu le feu aux poudres, ça a été le fait que le pape, un des papes de l'époque, avait besoin d'argent. Et pour récupérer de l'argent, il vendait des indulgences. Donc il fallait vendre le salut. Si tu ne payes pas une indulgence, tu n'es pas sauvé. Et on met les gens sous ce que j'appelle la prédication de la peur. Donc les gens payaient des indulgences et l'argent rentrait dans les caisses de l'Église de Rome. Et ça a été le comble, ça s'appelle de la simonie, quand on achète son salut. Et là, Jean Hus n'a plus pu laisser les choses se faire. Et il a été convoqué au concile de Constance. Et là, avec l'appui du roi de Prague, de Bohême, il a pu aller à Constance et il avait l'intention de défendre ses théories, ses pensées, en toute sincérité, sachant qu'il avait aussi la protection de son roi. Mais en face du danger, le roi l'a laissé tomber. Donc il se retrouvait seul en face des papes, enfin des gens du concile, qui ont bien évidemment refusé complètement sa vision des choses. Comme il était déjà hérétique, excommunié, ça ne suffisait pas. Ils l'ont décrété qu'il devait mourir et être brûlé sur le bûcher. Et donc, en 1415, il a été brûlé sur le bûcher au concile de Constance. Jean Hus ayant préféré obéir à Dieu plus qu'aux hommes, ça a toujours été sa devise, mais il l'a payé de sa vie. Et bien évidemment, tous ces co-religionnaires, puisqu'il y avait des milliers de personnes qui avaient adhéré à la pré-réforme, il y a eu beaucoup de persécutions. On ne va pas entrer dans les détails de l'histoire, mais quelques décennies après, les suivants, les co-religionnaires de Jean Hus sont allés en Allemagne et ont trouvé protection auprès d'un comte qui s'appelait le comte de Zitzendorf, qui était lui-même, entre guillemets, réformé, et qui a protégé ces gens. Et ça a été le début de ce qu'on appelle le mouvement morave. Voilà, c'est une belle histoire, pas toujours pavée de fleurs de rose, comme on dit. Même entre eux, il y a eu des gens modérés, il y a eu des gens radicaux, il n'y a rien de neuf sous le soleil, c'est toujours comme ça. Mais ça a été un mouvement qui a eu un grand impact missionnaire. Dieu les appelait pour aller annoncer l'évangile dans des lieux en Afrique du Sud, en Afrique, en Amérique du Sud, aux Antilles. Ces gens savaient qu'ils répondaient oui à l'appel de Dieu et qu'ils ne reviendraient jamais. Mais ils obéissaient à Dieu. Et ça a été... Ouais. Quitter tout, sa famille, on ne peut pas dire son confort, il n'y en avait pas des masses à l'époque, mais quitter tout pour aller annoncer l'évangile. Quel amour de Christ, c'est ça surtout. Donc c'est vrai que j'avais pris cet exemple de ce qu'on appelle quelqu'un de la pré-réforme, et que s'est-il passé? Ça a été l'évangile qui a été semé. La persécution autant des Vaudois du Piémont, par exemple, que des Hussites ont obligé les gens à partir, à se répandre, à fuir. Et avec la fuite, ça a été l'expansion de l'évangile, paradoxalement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Nous savons que l'histoire nous le dit, que cette Église, il y a eu toute la vague de la réforme que beaucoup d'entre vous connaissez. On parle de Martin Luther en Allemagne, de Jean Calvin en Suisse, de Lefebvre d'Étables, qui était un humaniste avec Erasme. Je regarde Jean-Marc, ça a été son mémoire de l'histoire de l'Église. C'était en Hollande. Lefebvre d'Étables, qui a été le premier traducteur de la Bible en français. Vous vous rendez compte, 1450-1537. C'est pas vieux, c'est pas loin. On peut encore citer Zwingli en Suisse, Bucer, Guillaume Farrell à Neuchâtel, John Knox en Angleterre. C'est en Écosse, je crois. Non, Écosse. Non, en Écossais, donc, mais à l'honneur. Théodore de Bèze, tous ces hommes qui ont creusé l'écriture et qui ont fait la même découverte, hein, du salut par la grâce uniquement en Jésus-Christ sans les œuvres, et de l'autorité centrale de la Bible et uniquement de l'écriture, du sacerdoce universel, nous sommes tous prêtres en Jésus-Christ. Ça a été quelque chose de totalement révolutionnaire et aussi de ne plus accepter ce qu'on appelle la transsubstantiation, c'est-à-dire la présence de Christ dans le vin et dans l'Église, je ne connais pas trop, enfin, dans l'Église catholique, la présence du Christ dans l'Eucharistie, mais de vivre la scène comme une commémoration, un souvenir, un rappel et une annonce. Toutes ces choses ont généré un bouleversement en Europe. Et ça, c'est l'Église de Christ. C'est le corps de Christ. Et puis, il y a eu toute la révolution de l'imprimerie. Les Chinois ont inventé le papier en 105. J'ai trouvé ça au 11e siècle. Ils inventent la typographie avec des signes en argile. La Corée étend ce procédé au XIIIe siècle et c'est au début du XVe qu'un certain Laurent Coster à Harlem, aux États-Unis, fabrique des caractères mobiles en bois. Non, ça ne doit pas être aux États-Unis, ça doit être en Hollande. C'est ça, hein, ce n'est pas le même Harlem. Et puis Gutenberg et son associé Pierre Schoeffer remplacent le bois par du cuivre. Et en 1455, ils impriment la première Bible en latin. C'est pas vieux qu'on a notre Bible. C'est extraordinaire, je trouve. L'imprimerie contribue à fixer les textes et permet de répandre les idées, notamment des humanistes, puis celles de la Réforme. La Bible peut être lue et comprise grâce à sa traduction complète en allemand, en français et en anglais. Les réformateurs qui répandent leur nouvelle conception de l'écriture et de l'évangile remettent en cause le sacerdoce romain. Les persécutions étaient terribles et ont contribué à l'émigration de milliers de personnes et étendre ainsi la foi protestante dans le monde. Les croyants ont continué à plonger leur recherche de Dieu dans la parole, puisqu'ils pouvaient maintenant la lire, et être enseignés dans leur langue personnelle, chacun d'eux. Il y a eu une découverte qu'ils ont pu faire, c'est que Jésus parlait du baptême par immersion et du baptême d'adulte. Et non plus du baptême des enfants. Voilà, en creusant l'écriture, ils ont découvert cette dimension-là. Et ça a donné naissance à un nouveau mouvement qui s'appelle les mouvements baptistes ou anabaptistes. Alors, anabaptiste, ça veut dire quelqu'un qui a reçu le baptême comme enfant, comme bébé, et qui, en tant qu'adulte, après avoir fait l'expérience de recevoir Jésus comme son sauveur, prend son baptême par immersion en tant qu'adulte, dans un choix et une alliance d'adultes réfléchis et personnels. Et on se rend compte que ces mouvements au sujet du baptême ont pris de l'ampleur là aussi. Ça n'a pas été sans heurts. Chacun, précédemment étant persuadé de ses convictions, refuse, n'accepte pas forcément les nouvelles qui arrivent. Et au fil des décennies, plus les gens lisaient l'écriture, plus ils ont découvert aussi que la vie du chrétien nécessitait la sanctification. C'est-à-dire que voilà, je suis sauvé aujourd'hui, j'ai Christ dans ma vie, je lui appartiens, j'ai pris mon baptême, Mais Dieu m'appelle à marcher avec lui en croissance et en sainteté. Et toute cette découverte-là a donné naissance au mouvement piétiste dans différents pays du monde, là aussi avec des mouvements modérés et avec des mouvements puritains, c'est-à-dire beaucoup plus radicaux dans leur choix. Et on trouve encore, et tous ces mouvements-là existent encore aujourd'hui. Donc on se rend compte que Jésus, le chef de l'Église, conduit son Église dans l'histoire de l'humanité, dans notre histoire. Et il y a à peu près 120 ans, il s'est passé quelque chose. À la fin du 19e siècle, il y avait ce qu'on appelait des mouvements de sainteté. Et ces gens-là avaient une telle soif de Dieu et de l'Écriture qu'ils ont beaucoup prié, se sont retrouvés entre eux vraiment avec le souci de vivre quelque chose de plus fort. Et on a commencé à évoquer une expérience, une seconde expérience après la nouvelle naissance, la conversion, qui s'appelle en réalité le baptême du Saint-Esprit. On entend une première fois ces mots, ça ne veut pas dire que des siècles précédents, il n'y en a pas eu, mais on n'a pas d'écho, c'était assez isolé. On en entend parler pour la première fois dans des groupes au Kansas et au Texas dans les années 1900-1903. Mais ce qui va bouleverser l'Église avec un grand E, ça a été le réveil du Pays de Galles. En 1904, le Saint-Esprit, entre guillemets, tombe sur toute une région. Et là, des milliers de personnes sont naturellement convaincues de péché, se convertissent à Jésus-Christ, sont sauvées et sont baptisées du Saint-Esprit. Et on a Steve ici, hein, qui a été au Pays de Galles, à Pénigrose, dans le centre de l'Église apostolique d'Angleterre, où il a enseigné à l'école biblique de Pénigrose. Et donc là, ça a été un bouleversement. Et dans le même temps, en 1906, il y a un groupe de chrétiens à Los Angeles qui, tout d'un coup, vit cette onction, cette deuxième expérience qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit, qui se met à parler en langue, à prophétiser et à vivre les dons. C'est le réveil d'Azusa Street, c'est le nom de la rue. Et depuis ce moment-là, dans l'histoire de l'Église avec un grand E, ça a bouleversé toute l'histoire. Ces choses se sont répandues, bien sûr, aux États-Unis, à Toronto, entre autres. De l'Angleterre, il y a un pasteur anglais, mais qui vivait en Norvège, qui est venu au Pays de Galles et qui a répandu cette notion du baptême, cet enseignement du baptême du Saint-Esprit en Norvège. Et là, des milliers de personnes ont été baptisées du Saint-Esprit. Il y a eu tout le réveil en Angleterre, en Écosse. C'est parti en Allemagne parce qu'il y avait beaucoup de liens avec l'Allemagne, en Suisse. Ça s'est répandu. Il y a eu un réveil de la même sorte en Inde. Il y a eu en Chine, en Arménie, au Congo. Et la spécificité de cette œuvre dans l'histoire de l'Église, c'est que autant les mouvements qui ont précédé, où le Saint-Esprit amenait l'Église avec un grand E à revenir au plus près de l'Écriture, sont des choses qui ont été instaurées, quelque part vécues par des hommes, parfois quelques femmes, mais surtout des hommes, qu'on peut nommer, il y a des noms, il y a des personnes. Cette œuvre, au niveau du vécu tout à nouveau de la Pentecôte, personne ne peut s'en prévaloir. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, aux quatre coins de la terre, mettant en place la volonté du Christ pour son Église. Moi, ça me passionne. C'est une page importante de l'Église et on peut se rendre compte à quel point le corps de Christ est quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire. Aussi, je pense que quand on réduit le fait de venir au culte le dimanche, prier, repartir, c'est extra, c'est super, mais je crois qu'il y a à prendre conscience d'une dimension bien plus vaste, de la dimension de Christ. Nous, en tant que chrétiens, nous faisons partie du corps de Christ, de toute cette histoire qui a impacté le monde. Je suis profondément convaincue que notre liberté de conscience ici en Europe, même de vote, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, est le fait de l'Évangile qui porte cette dimension-là. L'Évangile a un impact sur nos sociétés. Hein ? Et je ne suis pas là pour faire de la politique, c'est vraiment pas ça. C'est juste de faire le constat en étudiant toute l'histoire de l'Église à quel point ça a impacté l'humanité. Ça nous impacte et nous, aujourd'hui, 25 juin, ici à Kevin, c'est important. Je ne peux pas dire dans quelle mesure, mais on appartient à cette multitude de témoins. Et je voudrais qu'on n'oublie jamais que des milliers de personnes sont mortes, ont dû émigrer, ont été persécutées, ont été aux galères pour vivre ce que l'on vit aujourd'hui. C'est précieux. Alors, quelle est la pensée de Dieu pour son Église aujourd'hui ? Alors, honnêtement, je ne suis pas Dieu, donc je ne sais pas comment vous répondre. On sait aujourd'hui qu'il nous faut cultiver précieusement tout ce que Jésus nous dit dans l'Écriture. C'est vraiment un héritage que l'on doit cultiver, toute cette doctrine, même si ça peut être parfois rébarbatif, mais il nous faut non seulement la connaître, mais comme disait Jean-Marc tout au début, avoir l'intelligence de la vivre véritablement. Alors, où va l'Église avec un grand E ? Je ne sais pas ce que Dieu veut faire. Je n'ai pas de préscience. Peut-être donner plus de femmes dans le ministère, dans le monde évangélique. Peut-être. Amen. Je me dis, on va vers des temps difficiles. Le monde devient dur. Et l'Église a des convictions qui aujourd'hui sont contraires à celles du monde. Maintenant, on dit mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. Je crois que nous aurons à nous positionner avec un prix, tout en se souvenant que si Dieu est contre le péché, il aime le pécheur et il veut son salut. Je ne sais pas où est-ce que Jésus mène son peuple, en tout cas à nous préparer aussi pour son retour. Ça, c'est un message qui reste toujours là. Alors, je me dis, aujourd'hui, voilà, l'Église a toujours été battue en brèche par beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'opposition à l'Église, à l'extérieur. On vit dans un pays où parler de Dieu, ou de la Bible, ou de Jésus devient presque extravagant, enfin, on est illuminé, entre guillemets. Je ne sais pas, au niveau extérieur, quelles vont être les difficultés ou quel va être le chemin dans lequel Dieu va nous conduire. Je crois qu'elle est battue en brèche aussi de l'intérieur. On sait aujourd'hui qu'il y a des courants de doctrine qui mène l'Église vers une impasse. Et je trouve que l'histoire de l'Église est là pour nous enseigner aussi des erreurs du passé. Donc, je me dis comment nous, ici, on peut vivre et se poser à soi-même cette question. Es-tu sauvé par grâce ? Christ est-il ton sauveur ? As-tu pris ton baptême par immersion, en témoignage de ton alliance avec Jésus-Christ ? Christ est-il le Seigneur de ta vie pour te mener vers un chemin de sanctification, de purification ? Es-tu baptisé du Saint-Esprit ? C'est une expérience essentielle à la vie du chrétien. Nous pouvons lire dans Actes 2 tout ce que Dieu a fait au début de la vie de l'Église. Alors, si tu es baptisé du Saint-Esprit, peut-être as-tu besoin d'un renouvellement, d'un feu nouveau. Et si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, alors cherche-le. Cherche-le, parce que ça fait partie de ton héritage, véritablement. Pourquoi on est baptisé du Saint-Esprit ? Pour le témoignage et le service. Pas pour soi-même. Les dons de surnaturel sont là pour le service de l'Église. Les ministères sont là pour le service de l'Église. Le fruit de l'Esprit sont là, le fruit est là pour pouvoir vivre entre nous et dans le monde avec le caractère de Jésus-Christ. Nous en avons profondément besoin et je me dis peut-être qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est dans une phase où on pourrait dire on s'endort ? Je pose la question, je n'ai pas de réponse. Je me la pose à moi. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur des questions qui fâchent. Parce que ça se trouve, le Seigneur nous dira, mais non. Mais je crois qu'on a la responsabilité de s'examiner. Quand je vois tous ces gens qui nous ont précédés, qui ont été témoins de l'Évangile au prix de leur vie. Enfin, c'est fort, c'est sérieux. Et je crois que l'amour pour Christ, dont on a à grandir, que ça aille en même temps avec l'amour pour l'Église, avec un grand E, pour l'histoire, avec un grand H, parce que c'est ça. Vous êtes ici, nous sommes ici, dans l'histoire, avec un grand H. C'est pas rien. Alors, voilà, je voulais vous laisser ces témoignages forts de ceux qui nous ont précédés. Voilà, l'histoire de l'Église est quelque chose de passionnant à connaître. Je crois qu'on peut en tirer des leçons. On peut se laisser interpeller parce que c'est à cause de cette interpellation que chaque mouvement de réveil a pu arriver. Cette interpellation, cette soif de pouvoir vivre des choses avec Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, notre monde a besoin à la fois du témoignage de l'Évangile et du service. Que le Seigneur nous aide. Et je voudrais qu'on lise les derniers versets, Éphésiens 3, 14 à 21. Alors, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, c'est-à-dire avec l'Église, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, dans la nôtre aussi, ici, au siècle des siècles. Amen.